Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des codes des marques premium. Et pour m'accompagner, pardon, je suis avec Adjan Chélin. Salut Adjan.
Exactement, t'allais oublier presque de me représenter puisqu'on attaque cet enregistrement de podcast. Mais comme vous le savez, si vous nous écoutez en podcast, on est aussi sur Twitch tous les matins à 9h. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, la chaîne Super Natif. Mais si vous tapez le Super Daily, vous nous retrouvez. Et puis tous les matins dès 9h, du coup, vous pouvez venir parler avec nous en direct des épisodes. Donc ce matin, par exemple, on va parler des codes et des tendances visuelles des marques premium et des marques de luxe et voir un peu que leurs destins sont assez liés. Mais si vous vouliez en parler avec nous en direct, il fallait être là à 9h sur Twitch.
Ouais. T'as vu, les codes des marques premium ont changé. Traditionnellement, la communication autour de l'industrie du luxe, bien ça consiste, on va dire, en partie à rendre visible la richesse. Bah oui, c'est un peu la base. Jusqu'à présent, il s'agissait d'envoyer une sorte de signal clair et immédiat sur le statut de l'acquéreur, celui qui a acheté un truc. En gros, de dire, bah, t'as acheté un truc qui coûte cher, ben je vais te montrer que ça coûte cher, jusque dans les détails, jusque dans le packaging par exemple. Du coup, concrètement, on se retrouvait avec beaucoup de noir et de doré. C'était vraiment les codes jusqu'à présent du premium de la marque de luxe. Sauf que le marché du luxe, est en train d'évoluer. Il est notamment bousculé par l'arrivée de marques semi-premium.
Oui, exactement. On a des marques qui sont semi-premium et qui viennent chercher en fait les codes des marques qui sont justement de luxe. Parce que pourquoi ? Bah, leurs consommateurs vont venir acheter des produits semi-premium, mais aimeraient sûrement aussi avoir les produits de luxe qui sont encore plus chers, qui sont au-dessus. Et donc du coup, bah, dans les codes qu'utilisent ces marques-là, souvent on voit que bah, petit à petit, ils dérivent vers les codes des marques de luxe en place.
Oui, c'est à peu près dans toutes les catégories du luxe, c'est à peu près sur toutes les industries. Il y a effectivement des marques qui ont commencé à copier les codes classiques du luxe. Et bien pourquoi ? Pour attirer l'attention des consommateurs, hein, tout en leur offrant des prix un peu plus bas. En gros, allez, quelques-unes comme ça. Moi, je pense à Guess, hein, la marque Guess. Je pense à Michael Kors. Sont des marques qui ont un positionnement en premium. Ce ne sont pas des marques de luxe pour autant. Mais oui. Par contre, elles ont piqué tous les codes des acteurs du luxe, du noir, du doré, des monogrammes, hein, tout ça, c'est vraiment initialement vraiment la signature du marché premium business. Et là, ces marques, eh ben, en gros, elles font les codes du luxe en moins cher, c'est un peu ça l'idée.
Bah, là-dessus, peut-être qu'on peut juste dire un mot sur le fait qu'effectivement, il y a quelques années, on a vu la plupart de toutes ces marques-là basculer, même au niveau des logos, sur le noir. Hein, les couleurs noires, monochromatiques, c'est des choses qui sur lesquelles ils sont venus coller les marques de luxe. La marque premium par excellence, dont souvent que j'utilise comme exemple, c'est souvent Apple, qui est pas, c'est pas du luxe Apple non plus. On n'est pas dans l'univers du luxe, mais on est dans l'univers ultra premium et Apple est allé chercher certains codes très épurés, noir et blanc, des marques de luxe de l'époque. Aujourd'hui, les choses évoluent un petit peu.
Oui, et puis du coup, le glamour très superficiel, on va dire, de la marque de luxe, bah, c'est devenu de moins en moins différenciant. Oui. Et forcément, ça pose un problème, hein, aux marques historiques, on va dire, qui ont été obligées de se réinventer et de repositionner leur vision du haut de gamme. Hein. Du coup, place à de nouveaux codes visuels qui font la part belle, eh bien, on va le voir, à la simplicité, au naturel aussi. Et dans un paysage visuel sursaturé de doré, de noir, de marbré, etc., bah, la simplicité, ça devient peut-être ce nouveau ticket gagnant.
Ouais, alors en plus, c'est marrant que tu parles de la simplicité parce que je trouve que c'est aussi une tendance dans la mode de manière globale avec ce qu'on appelle le sobcore, qui est du coup la sobriété à l'intérieur de la mode. On voit de plus en plus de marques de luxe qui tendent vers ça et vers le pratique, simple, qui n'est pas trop voyant, trop flashy. Et justement, comparé à ce que tu disais en introduction de l'épisode de bah, moi j'achète une marque de luxe, j'ai envie que ça se voit et qu'on voit que, et bah, justement, le bling bling peut-être est en train de redescendre un peu dans le côté luxe. Et du coup, bah, ça change aussi la donne.
Oui, et ça se voit jusque dans les logos. Hein, les nouveaux, les logos des marques de luxe, eh bien, ils ont évolué vers plus de simplicité. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Quand tu regardes bien, je vous mets en note de cet épisode un lien vers une planche comme ça d'évolution d'un paquet de logos ouais. de marques de luxe. Allez, de Balenciaga, Burberry, Balmain, Yves Saint Laurent. Ça, c'est autant de marques de luxe qui avaient des logos initialement assez sophistiqués, qui sont tous transformés depuis quoi moins d'une dizaine d'années. Ils sont tous basculés vers une écriture très différente. Très simplifié, sans empattement, en capital, donc ouais. en majuscule, ultra sobre.
T'as raison, ultra intéressant de ce côté-là, puisqu'il y a une espèce d'uniformisation hein, auprès de plein de marques, et on a vu, comme tu le disais, bah, des marques de luxe basculer, comme Saint Laurent ou Balenciaga, mais aussi plein de marques un petit peu premium, comme par exemple Google, Pinterest, Airbnb, qui sont venus se placer sur les mêmes encodants avec effectivement une typo très simple, plus du tout d'empattement, plus du tout aussi de petits détails un peu fun sur autour de l'écriture et du logo, comme Spotify pouvait avoir ou comme Pinterest ou Airbnb. Et en fait, maintenant, c'est vraiment très droit, très simple, plus bold aussi, plus épais en termes de typo. Et effectivement, il y a beaucoup de logos de marques de luxe qui ressemblent maintenant à des logos de marques premium.
Ouais, ça c'est vraiment étonnant. On est passé, alors là pour les amateurs de typo, initialement le monde du luxe, c'était vraiment le monde de la typo sérif, hein, cette petite typo à empattement un peu oui. sophistiquée, qui apportait du détail, qui soulignait, on va dire, la notion de savoir-faire, d'authenticité, d'historique aussi hein, de la marque.
Il y avait un côté très histoire, je trouvais. Tu vois, quand tu rajoutes c'est tout de suite les petits empattements, etc., ça donne tout de suite un côté, il y a le poids de l'histoire sur,
sur les empattements, les ligatures entre les lettres, etc. Et on a basculé vraiment vers le sans sérif. Et le sans sérif, c'est la typo dénudée, c'est la majuscule telle qu'on la connaît, ultra simplifié. Et ça, c'est très étonnant à voir. Autre point, eh bien, si on bascule cette fois-ci dans l'industrie de la bouffe, de l'agroalimentaire, la food, quoi, hein, eh bien, dans la food, là aussi, l'appropriation des codes du luxe déborde jusqu'aux marques de distributeurs, ce qui implique les acteurs à se déplacer. Ça aussi, je trouve ça très intéressant. Historiquement, la couleur du luxe, c'est le noir. Voilà, le noir, c'est le symbole de l'élégance, de l'intemporel.
Surtout en food, hein, on voit souvent des packagings tout noirs, ça représente tout de suite quelque chose d'un peu plus cher.
Oui, ça fait plus sophistiqué immédiatement dès qu'il y a du noir. Et ça a été effectivement massivement utilisé dans le branding des marques de luxe, mais des marques aussi agroalimentaires, ce positionnement sur un angle premium. Et si tu jettes un coup d'œil justement du côté des marques de food, c'est très flagrant, hein, notamment en ce qui concerne les marques de MDD. Et oui, pour, on va dire, gamifier leur offre, eh bien, elles jouent habilement avec les codes du luxe. Elles font en sorte de créer une gamme au sein de leur offre MDD, gamme premium. Elles ont toutes ça. Il y a Carrefour Sélection, hein, c'est la marque premium de Carrefour. Bah, si tu jettes un coup d'œil, grosse dominante de noir sur les packagings, typo en or. Si tu regardes Monoprix du côté de gourmet, Monoprix Gourmet, pareil, gros apport de noir. Alors là, il y a du violet aussi, mais pareil, l'or est présent. Les créations d'Intermarché, hein, qui est le segment, on va dire, premium de la marque MDD. Idem, packaging noir, typo or. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Et forcément, pour...
Les marques de plus chères encore.
Bah, ça oblige à se repositionner. Oui. Parce que face à cette appropriation des codes du luxe, eh bien, les vraies marques premium, elles sont obligées de migrer vers d'autres univers, vers d'autres codants hein, plus minimalistes.
Effectivement, t'as raison. Là, on a vraiment c'est vraiment le côté des marques premium viennent copier les marques du luxe jusqu'au packaging, dans les codes couleurs du packaging et la manière de faire le packaging, ce qui oblige les codes du luxe à se décaler encore et à se déplacer. Et t'as raison, moi je trouve qu'au niveau de la food, en tout cas, on retrouve un côté aussi plus simple, plus craft, plus avec aussi une des nouvelles matières plus écologiques, et les marques de luxe s'en emparent aussi. Et je trouve que les nouveaux encodants du luxe dans la food ressemble plus à justement le côté un peu craft, un peu artisanal, fait maison, plutôt que le côté tout noir qu'on avait avant avec écriture or.
Ouais, ça c'est vraiment, je trouve, le plus flagrant. Et alors, puisqu'on parle de packaging minimaliste, comme nouveau code des marques de luxe, il faut aller jeter un coup d'œil du côté des rayons beauté, hein, parce que là, c'est
à la cosmétique.
C'est la cosmétique, hein, c'est vraiment là qu'on voit le switch peut-être qui s'est produit. Fini le noir, fini le doré, place à des emballages vraiment dans le minimal. Une façon aussi de marquer pour nombre de ces marques à souligner, on va dire, leur valeur et puis aussi leur besoin de transparence, d'authenticité. Hein. Ça fait aussi partie de ce qui est véhiculé par les emballages, le packaging. Et j'ai un exemple qui me semble intéressant à souligner, c'est la marque The Ordinary. Est-ce que tu connais cette marque de cosmétiques ? Bon, c'est une marque canadienne de cosmétiques. Dans le studio, on me dit oui, je connais.
C'est super.
marque canadienne qui vraiment s'impose aujourd'hui sur le marché des cosmétiques français. Hein. Tu les trouves à peu près partout, chez Sephora, chez Marionneau, etc. Et ces flacons, ils sont marqués d'une simple étiquette blanche avec une typo noire bâton ultra sommaire dessus qui décrit en gros l'essentiel de la solution qui est présente dans le flacon. Ultra minimaliste et donc ultra luxe, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est très marrant, si tu regardes bien, c'est que ce code de ce petit flacon ou ce petit sachet avec une étiquette blanche et une typo noire, c'est quasiment les codes des premières MDD. C'est le code, c'est les codes initiaux de Lidl quand ils sont arrivés en France, quasiment pas de packaging et tout. Et c'est marrant de voir le revirement qu'il y a eu, quoi.
T'as raison. Effectivement, la simplicité et bon, c'est un peu une boucle. Hein, d'un moment, ils retombent sur les mêmes couleurs. Quand tu parles de cosmétiques, ça me fait penser au code couleur de manière générale dans la communication qui est utilisée. Et effectivement, on l'a dit, le noir, le monochromatique avec des petites touches d'or à l'intérieur, c'était vraiment les codes des dernières années du luxe. Et ça a bougé et le premium aussi est en train de bouger. Et on retrouve de plus en plus de couleurs à l'intérieur de la com de ces marques-là aussi, je pense, pour s'adapter un petit peu plus aux social media, parce que leur com elle vient s'adapter aux social media et que pour attirer l'attention, bah parfois le tout noir c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. J'ai l'exemple de la marque Lancôme, puisqu'on parlait cosmétiques, et des palettes de couleurs qui sont entre l'ivoire et le rose avec des tendances un peu pastel. Ça, c'est des couleurs, je trouve, qu'on retrouve énormément depuis quelques mois dans la cosmétique en particulier, mais aussi les marques un petit peu plus luxe avec des fonds un peu de cette couleur-là.
Oui, le nude un peu, tu vois, ces tons un peu ivoire, rose poudré, etc.
C'est des couleurs qui fonctionnent très bien parce qu'elles sont assez légères, assez neutres. Elles sont beaucoup moins lourdes que d'autres marques qui peuvent représenter justement le luxe et elles peuvent aussi se marier très bien avec des couleurs de marques plus profondes qui seraient utilisées.
Je vous mets juste en note de cet épisode, une série de palettes chromatiques qui me semble intéressante, que j'ai pu trouver sur un article qui décrivent justement ces tonalités nude comme ça, avec effectivement du rose poudré, du sauge, du crème, de l'ivoire, etc.
Ouais. Bah, justement, pour parler du coup de Lancôme et de cette palette-là de couleurs, si on défile un petit peu, et pareil dans les notes, vous trouverez le lien vers leur compte Instagram. Si vous défilez un peu le compte Instagram, c'est une marque qui est très intéressante parce que déjà, même dans son logo, et ça c'est intéressant, il y a une typologie de logo intéressante pour une marque plutôt luxe parce que vous allez avoir le nom de la marque Lancôme avec écrit Paris juste en dessous avec justement une typo comme on parlait, hein, très bâton, et puis derrière vous allez avoir un fond déjà rose. Donc déjà, c'est assez étonnant pour ce genre de marque d'avoir un fond complètement rose. Et puis en plus, quand vous parcourez après le feed, tous les visuels sont travaillés dans ces tons de couleurs. Et là, bravo aussi à la DA qui est posée sur le compte parce qu'il y a une vraie DA, une continuité de la DA sur tous les posts. Vous retrouverez ce rose ivoire partout. Il y a des petits moments où en couleur secondaire, on peut avoir des couleurs un peu plus vives comme du rouge ou un orange qui viendra se marier avec. Mais sinon, c'est toujours ces couleurs-là qui sont dans le fond. Donc, je trouve ça très efficace et notamment sur les réseaux sociaux, ça attire beaucoup l'œil et c'est très beau ce
noir et rose. Et puis, il y a une couleur qui a remplacé le noir petit à petit, c'est le bleu roi. Ça, c'est vraiment marrant parce que ce bleu roi, c'est quasiment le bleu du drapeau français, hein, d'ailleurs, à peu près. Hein,
Moi, c'est le bleu roi, le royal. Quoi.
Voilà.
C'est le bleu qui représente
la royauté. Et ce bleu-là, il commence vraiment à prendre le dessus et devient un nouveau codon de la marque luxe et qui vient habilement remplacer le noir en sans doute lui rapportant aussi plus de craft, plus d'artisanat, plus de notions de vrai et d'humain que le noir qui est finalement très froid. Quoi.
Bah, c'est une couleur qui représente bien la richesse, le luxe aussi.
Un peu comme nos studios ici. Regarde les studios. On a des studios extrêmement luxueux.
Ouais, ils sont un poil sombres, je trouve, pour un bleu roi, mais ils sont. C'est un peu ça, j'allais le dire derrière toi, là, ceux qui nous regardent sur Twitch, derrière toi, Thibaut, on n'est pas loin de ce bleu roi. Moi, j'ai un exemple aussi autour de ça, qui est un exemple assez intéressant parce que c'est une marque qui a changé de positionnement, justement, il n'y a pas très longtemps. Et du coup, qui a changé un un peu ses, tous ses encodants. C'est la marque Peugeot, qui était une marque plutôt de, populaire hein, de voitures en France, et qui, il y a quelques temps, a décidé de prendre un virage et de devenir plus premium, avec des voitures un peu plus chères aussi. Et ça se sent jusque bah, dans son logo, puisque son logo, maintenant, c'est un lion assez élégant, illustré de profil, avec un Peugeot gravé juste au-dessus. Et puis, tout ça à l'intérieur d'un écusson, qui n'est pas sans rappeler, tu sais, ça fait un peu écusson, je trouve, Moyen-Âge, ou tu vois, de
oui, oui.
Très, très royal, quoi, encore une fois. Et quand vous allez vous balader sur le compte de Instagram de Peugeot et que vous descendez un petit peu dans, dans le feed, pareil, là, vous voyez qu'il y a du bleu partout. Il y a des teintes de bleu après qui peuvent aller un peu vers le vert, un peu, mais vous avez quand même une teinte bleu-bleu roi quand vous descendez dans le feed qui est très présente, soit sur les voitures qui sont directement bleu roi, soit c'est les fonds derrière qui sont bleu roi.
Oui, il y a cette sorte de fil conducteur,
voilà,
t'as raison.
Soit même dans les vêtements des gens, si, si vous descendez un peu dans le feed, vous verrez, il y a les vêtements des, même des personnes qui sont sur les photos qui sont dans ce bleu un peu bleu roi, et c'est vraiment une continuité dans la DA de Peugeot qui est beaucoup plus premium que ce qui pouvait être fait avant.
Bon, de temps en temps tu tombes sur un espèce de
un mec qui est en train de visser quelque chose, voilà, voilà, mais parce qu'il y a une idée performance aussi après derrière.
Mais t'as raison, cette espèce de bleu dans le cas de Peugeot qui est quasi bleu roi mais à tendance un peu électrique,
c'est
comme ça
il y a une tendance un peu électrique.
Il est effectivement, il est très 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 prégnant. Moi, ce que je trouve assez fascinant là dedans et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les couleurs et notamment leur interprétation dans le packaging, hein, tous ces codes sont la continuité de l'expérience d'achat. C'est vraiment ça qui est clé, et ça a toujours bien été sûr. Le cas dans les marques de luxe, hein. Le packaging, en fait, c'est la rencontre entre le consommateur et la marque.
Ouais.
Bah ouais, c'est vraiment là que la rencontre, elle commence dans le packaging. C'est donc un signe identitaire fort, et c'est vraiment intéressant de voir aussi comment ces packagings-là, ils bougent, comment les emballages se transforment. Hein. Et là, je suis tombé juste sur, pour conclure, hein, sur une petite étude intéressante menée par James Cropper. Je vous mets le lien aussi en note de cet épisode, qui montre à quel point la notion de packaging, d'emballage, elle est devenue de plus en plus importante pour nous. Hein. 65% des consommateurs s'attendent à ce que l'emballage dans lequel leur achat de luxe arrive, soit une continuité de l'expérience de luxe. En gros, bah oui, bien
ouais,
sûr,
bien
je veux
sûr.
Qu'on emballage, il aille avec.
Ah, oui.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils étaient que 15% à considérer ça comme important il y a 10 ans en arrière. Donc on voit comment les choses se sont déplacées, et sans doute, évidemment, on le sait, hein, c'est que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Bien sûr, mon expérience d'achat, à un moment donné, elle passe par raconter cette expérience, elle passe par l'unboxing, etc.
Sujet très intéressant, assez vaste, et si vous avez une petite pierre à l'édifice à apporter, n'hésitez pas à le faire à Supernatif sur les réseaux sociaux, puisqu'on est sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, on est partout, n'hésitez pas donc à en parler avec nous, ou alors tous les matins à 9h sur Twitch. Et puis si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas, un commentaire, une petite note, parlez-en à un pote, ça fait toujours plaisir.
Merci à vous tous, on vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée, salut tout le monde.
Allez, ciao,
bye.
Ciao.